Ah, plein de choses se passent dans l'actualité, dans les sports. 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Pascal, côté trafic, ça peut ressembler à quoi présentement?
C'était compliqué, il y a des accidents dans certains secteurs, entre autres. Si on repart du début, Henri IV Nord, dans l'accès pour Charest, voie droite qui est bloquée, il y a un accident, alors ça ralentit. La congestion aussi sur l'autoroute 20 ouest, sur la route 116, là, près de Saint-Nicolas, la route Lagueux aussi, au kilomètre 303, il y a un accident, donc ça a ralenti. Puis à cette heure-ci, bien souvent, il y a des gens qui partent d'avance pour un long congé. Alors, c'est un rappel que si vous voulez vérifier vos embranchements, votre route avant de partir, peut-être qu'il va falloir faire un détour parce que quelques ralentissements partout.
Capitaine tranquille, comme on l'appelait dans le temps, Jonathan Toews qui vient de signer un contrat avec les Jets, 38 ans, ça faisait un bout qui était tenu à l'écart du jeu en raison de la COVID longue et des problématiques de cette COVID-là. Ça fait déjà quelques années. Ben là, il est prêt à revenir au jeu et a signé avec les Jets de Winnipeg. On parle d'une entente d'un an. Pour ce qui est du montant, on ne l'a pas parce que le marché des joueurs autonomes ouvre dans quelques jours, donc le 1er juillet. Mais s'il y a quoi que ce soit de plus là, concernant Jonathan Toews, on le saura dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Sinon, ce sera le 1er juillet, mais c'est une bonne nouvelle, je pense, pour les Jets de Winnipeg, qui acquiert un gars qui est un solide winner dans la Ligue nationale de hockey. Sinon, les Capitals, deux victoires dans un programme double hier face aux Boulders de New York, 7-1 et 6-4. Retour à domicile aujourd'hui pour une série face aux Miners de Sussex County. Donc, amusez-vous, les amis. On va peut-être aller faire un tour au stade ce soir de mon côté. J'accueille en studio deux personnes, un que je connais peut-être un peu plus, l'autre que j'ai déjà rencontré. Marc Desgagnés d'M2 Gaming et Thomas Wilson du studio Runic. Salut les amis!
Comment ça va?
Merci d'être là. Comment ça que tu as décidé de ne pas te pointer de seul ici, Marc Desgagnés? T'as-tu peur tant que ça de Pascal?
Non, ben ça aurait été pas pire, mais c'est pas ça malheureusement. Non, c'est parce que je suis rendu vieux. J'ai besoin de quelqu'un vieux? M'accompagner. Ah. Fait qu'il me tenait par le bras pour monter en haut.
Ouais, je regardais le CV de Thomas Wilson, puis j'hallucinais. Puis ce que tu m'as fait, tu m'as parlé tantôt, puis on va raconter ça aux auditeurs, mais tu me dis, tu sais, il a réalisé plein de défis dans sa carrière, puis il y en a encore un accessible dans quelques années, puis il dit comme il a réalisé tous les défis qu'il s'était donné, c'est clair et net que celui-là, il va le réaliser. C'est un gars qui est extrêmement déterminé. T'es un gars déterminé, Thomas Wilson.
Oui, on peut dire ça.
T'as travaillé sur des jeux vidéo qui sont juste hallucinants là, dans ta carrière. C'est quoi le jeu sur lequel t'as travaillé qui était le plus fou? Là?
Oh mon Dieu, il y en a eu quelques-uns. On a travaillé avec Spider-Man longtemps. Fait que ça, c'était bien le fun. Un jeu qui, dans le temps, c'était Spider-Man Shattered Dimensions. C'est ce qui avait inspiré éventuellement Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais. Vous avez vu le film d'animation. On a travaillé avec Skylanders, donc pour ceux qui avaient des enfants à cette époque-là, l'idée de collectionner des figurines pour ensuite les mettre sur le portable qui prennent vie dans le jeu, ça c'était extraordinaire. Évidemment, Crash Team Racing Nitro Fuel, qui est un jeu de kart compétiteur à Mario Kart.
Ouais.
Et on est allé chercher un Game Awards avec ça, ça c'était fantastique de travailler sur un jeu de kart. Puis évidemment, plusieurs Call of Duty auxquels on a collaboré qui étaient vraiment le jeu fort là, d'Activision. Donc, plusieurs grosses franchises,
Mes gars n'ont pas le droit de jouer à Call of Duty. Là. Par contre, ils regardent des YouTubers qui, eux, jouent à Call of Duty.
Puis là, c'est mieux ça, Yannick.
Ben, c'est ça que je me pose comme question.
C'est ça que je t'écoute, là.
Mais je peux encore dire qu'en tant que parent, j'interdis à mes enfants de jouer à Call of Duty.
C'est là que t'es supposé avoir le
buzzer. Je le veux depuis 2 ans, ce buzzer.
Exact. Mais mes gars te considéraient comme une superstar parce que t'as travaillé sur ce genre de jeu-là, de projet. T'étais avec Binox et Activision.
Ouais.
T'étais là pendant plusieurs années. C'était-tu quelque chose que tu voulais faire de ta vie, toi, travailler dans un jeu vidéo?
Oh, absolument. En fait, dès le départ, à l'époque, en fait, il n'y avait pas beaucoup de studios de jeux à Québec. Puis là, on recule, là, ça a trahi mon âge là, au tournant du siècle. Fait que, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que je voulais...
Ce siècle-ci ou le siècle dernier?
Le siècle-ci. Ce siècle-ci, quand même.
Il n'est pas si vieux que
Mais il faut dire qu'à l'époque, c'est ça, moi, j'aimais dessiner. Donc, j'illustrais, je baignais
dans
des mondes. Exactement. Puis, à l'époque, j'ai suivi un programme de graphisme, mais éventuellement, je me suis rendu compte que là, les programmes de 3D apparaissaient. Mmh. Donc, je suis allé faire des études aux États-Unis pour pouvoir entrer dans cette industrie-là. J'étais allé en Floride, mais donc, éventuellement, à Québec, il y avait un studio qui cherchait des concepteurs de jeux, puis j'ai appliqué, puis ça a commencé comme ça. Mais c'était vraiment un rêve de faire partie de cette industrie-là, puis là, ben, ça va faire 26 ans presque que je suis là.
Ce que je jouais, c'était talent en dessin à ce moment-là?
Une combinaison de talent en dessin, puis d'esprit créatif. J'avais toutes sortes d'idées tout le temps. C'était facile pour moi de penser à des univers ou des styles de jeux qui pouvaient être joués. Donc, ça m'a permis, avec ce talent-là, de progresser dans ma carrière jusqu'à ce que je finisse par diriger, co-diriger Binox là, à Québec.
Ah, c'est très cool. Puis après ça, ben, t'es parti de là et t'as décidé de partir ton propre studio.
Yes, sir.
Studio Runique.
Oui, exact. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'étais tanné de Call of Duty. Là, il y en a qui vont faire « Oh non, mon Dieu, c'est impossible! »
C'est pas ça devant mes enfants!
Mais non, je le sais. Parce que de toute façon, c'est vraiment à chaque fois que je me promène partout pour parler de ce que je fais dans la vie ou de ce que j'ai fait, tu dis Call of Duty, puis il y a une réaction dans la salle qui est immédiate.
Ouais, t'es comme un chanteur populaire. Là, la toune qui aimait... Là, il a chanté tous les soirs, à un moment donné, c'était un petit peu moins
son
sexy.
Son One Hit Wonder.
Ah, exactement. Mais c'est vraiment
que
ça
fait.
Parce que
j'ai fait d'autres choses.
Il y en a qui en mangent pour déjeuner du Call of Duty, mais moi, à un moment donné, je finissais par avoir ma tasse de thé. Puis j'étais quelqu'un de plus coloré, disons, dans le style de jeu que moi, j'aimais faire. Fait que j'ai quitté la cage dorée, comme on peut dire, pour vraiment partir dans le merveilleux monde du jeu indépendant pour fonder un studio avec des anciens collègues de Binox. Puis on voulait vraiment quelque chose qui avait une saveur québécoise. C'est pour ça que Runic, avec le Q à la fin, c'est pour Québec. C'était vraiment important pour nous d'avoir un studio qui était fièrement québécois.
On parle de la lettre Q.
De la lettre Q. Avec un Q majuscule.
Pardonne-moi l'expression, mais pour se partir un studio, ça prend des grosses couilles, là.
Oui. J'ai pas mesuré la taille de les miennes, mais on va dire que je sens qu'on était...
Allons-y, les garçons! Sortons l'artiraille!
Mais ce que je dirais, c'est qu'en approchant des anciens collègues, qui étaient aussi des vétérans, c'était plus rassurant de démarrer quelque chose. Puis, en fait, le produit qu'on a démarré chez Runic, dans le fond, on va en parler, les Héros du Mont-Dragon, c'est qu'à la base, c'est un projet que j'avais créé pendant que j'étais encore chez Binox, dans un univers qui est transmédia. Donc, ça veut dire, ça a commencé avec un jeu de société.
Ouais.
Après ça, il y a des romans d'aventure qui rappellent les livres dont vous êtes le héros, qu'on voulait sortir. On a une collection de casse-tête. Donc, l'idée était de développer un produit qui allait être dans différents médiums. Et donc, le jeu vidéo est venu comme étant comme un de ces médiums-là. Et c'est à partir de là que j'ai dit aux gars, pourquoi on ferait pas le jeu vidéo des Héros du Mont-Dragon, qui est un univers que j'avais créé par l'entremise du jeu de société.
Puis eux ont cru en ton projet, puis ont embarqué avec toi.
Yes.
Ça peut représenter comment en investissement, là, partir un nouveau studio, tu pars de rien, tu t'associes avec tes chums de gars, des gars d'expérience, mais je regarde les grosses entreprises où tu étais avant, Binox, Activision, il y avait des gros moyens.
Ah oui, oui.
Là, vous autres, vous avez fait quoi? Vous êtes parti avec votre portable, vous avez dit « on va changer le monde? »
Un peu ça. Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a évidemment investi notre argent personnel au départ.
Ouais.
Mais rapidement, il fallait être capable d'aller chercher du financement pour faire un jeu. Parce que si on veut avoir des employés, il faut pouvoir les rémunérer.
Exact.
Puis là, évidemment, ce que tu fais c'est ce qu'on a fait pendant à peu près un an et demi. Tu vas cogner à la porte de différents éditeurs en disant « écoutez, on a une vision, on veut faire ce jeu vidéo-là, seriez-vous intéressé à embarquer dans l'aventure? » Mais on est arrivé à une période, on le savait pas, post-pandémie, et c'était le Klondike à l'époque, pendant la pandémie, il y avait plein de projets qui étaient signés, tout le monde restait chez eux, donc l'industrie se portait bien, tout le monde gamait. Puis là, il y a vraiment eu un méchant ralentissement, pour ne pas dire comme une sorte de crash qui a fait que ça a été beaucoup plus dur pour nous de trouver le financement de notre projet, mais on l'a fini par le trouver par... l'entremise du Fonds des médias canadiens.
Okay.
Donc, c'est là vraiment qu'on était capable. Puis ça, c'est un appel à projet. Là, tu déposes ton projet, faut que tu aies une bonne idée. Puis il faut que les juges qui l'évaluent considèrent que ça mérite de le financer. Et c'est comme ça qu'on a trouvé l'argent pour notre projet.
T'as-tu eu une période de doute là-dedans? Tu sais, quand ça allait pas si bien que ça, puis là, tes chums t'ont dit « Chris, ça nous a fait quitter notre job, là, on est pogné avec toi. »
Oui, y a toujours un doute, simplement parce qu'à un moment donné, honnêtement, ça a été plus difficile qu'on pensait d'aller trouver du financement.
Ouais.
Et puis le financement, c'est le nerf de la guerre. Si t'as pas de financement, tu peux pas payer les gens avec qui tu travailles.
Mm-hmm.
Et donc, on a dû se serrer la ceinture, mais aussi être créatif, c'est-à-dire il a fallu réfléchir au type de jeu qu'on voulait faire. On a changé la nature du jeu qu'on voulait, qui était au départ beaucoup plus ambitieuse, avec un budget qui était plus grand si on le trouvait. Puis finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit « OK, ben avec le budget qu'on a, c'est ce qu'on peut faire. Puis on va s'assurer d'avoir comme un produit de qualité dans les petits pots, les meilleurs onguents. » C'est ce qu'on se dit, là, finalement. Puis c'est comme ça qu'on était capable de s'entourer du nombre de personnes qu'on avait besoin pour livrer le projet qu'on a défini avec le budget là, obtenu par le Fonds des médias canadiens.
Vous êtes une petite équipe. Tu parlais des jeux comme Call of Duty ou Fortnite. Là, je regarde la beauté de ces jeux-là. Je me dis, il doit y avoir des centaines de personnes qui travaillent sur ces jeux-là.
Yes.
Chez vous, pour les héros du Mont Dragon, vous êtes combien à travailler là-dessus?
On est 9.
Et là, encore en vie.
Ouais. Juste vous donner une idée, quand on pense Binox, au moment que je quittais, on était 450. Et maintenant, il y en a beaucoup plus. Et c'était une partie du développement de Call of Duty. Donc, en fait, c'est des milliers de personnes qui travaillent sur un projet comme ça. Et donc, là, partir de plusieurs centaines d'employés à 9, c'est complètement différent. Puis même, on n'était pas 9 tout le temps. Au départ, on était 3, 4, 5. Là, on a commencé à se rajouter pour être capable de produire.
Mais juste de même, en même temps, ça doit être plus facile à gérer comme staff?
Oui. Ben, en fait, ça vient avec des défis de communication si tu n'es pas habitué de travailler ensemble.
Ouais.
Nous, on est 100% télétravail, donc, mais étant donné que c'était pour la plupart des anciens collègues ou des gens, des vétérans d'industrie, le niveau de communication, les échanges qu'on peut avoir deviennent beaucoup plus faciles. Puis c'est comme ça qu'on était capable, en télétravail, de se faire confiance puis d'avoir un bon niveau d'autonomie. Oui, mais on essaie. C'est vraiment, je suis très fier de l'équipe qu'on a parce que c'est des gens de talent. On devient ce qu'on appelle, pour employer l'anglicisme, des « one man army ». On fait beaucoup de choses, on porte plusieurs chapeaux comparativement à un projet, mettons comme j'étais avant sur Call of Duty, on avait de tout. T'sais, un illustrateur, un concepteur de jeu, un programmeur. Là maintenant, moi mettons, je faisais les illustrations du décor, je faisais la vision créative, la direction artistique, je faisais des designs de menus, il y a plein d'affaires.
T'es multitask.
Tu deviens multitask. Inévitablement, tout le monde devient multitask parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Vous êtes dans un univers de passionnés, puis en plus, ben, vous y travaillez. C'est-tu dur de ne pas compter ses heures?
Oui.
Demande à sa femme.
T'es célibataire depuis combien d'années?
C'est ça. J'essaie de ralentir, mais c'est sûr que je me définirais un peu comme un workaholic. À mon avis, tu ne regardes pas ça parce que ce que... Quand tu essaies de bâtir un univers comme l'Héros du Mont-Dragon, c'est pas juste le jeu vidéo, c'est l'ensemble de l'œuvre. Quand je suis pas en train de travailler sur le jeu vidéo, je suis en train d'illustrer les romans. Je suis en train de travailler sur le potentiel le prochain jeu de société qu'il va y avoir dedans. On est en train de réfléchir aux produits dérivés. C'est un ensemble de choses là, qui font que on regarde pas trop le temps passé, mettons.
Ouais. As-tu fait tatouer un clavier sur elle pour être sûr que tu l'oublies pas?
Heureusement, non.
Non, bon, OK. Les héros du Mont-Dragon sur PC, ça sort dans quelques jours. Là. Ça sort le 25?
Le 25, oui, exactement. C'est enfin un premier aboutissement avant que ça sorte sur les consoles au courant de l'automne.
Ça s'adresse à qui, ce jeu-là? Puis parle-moi du concept.
Bon, en fait, les héros du Mont-Dragon, ça s'adresse à tout le monde. C'est un divertissement familial, que ce soit le jeu de société, les livres ou le jeu vidéo. Puis, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un beat'em up. Donc, en fait, pour ceux qui se souviennent de Golden Axe, qui était à l'arcade, nous on est un peu nostalgique des jeux d'arcade, c'est que tu choisis ton bonhomme, tu te déplaces de gauche à droite, puis tu combats des monstres. Tu fais des monstres jusqu'à temps que tu arrives à un boss, puis on change de tableau. Donc, c'est un jeu qui est familial parce que tu peux jouer dans ton salon à 4 joueurs. Ça fait que ça, c'est bien le fun. Ça se joue en ligne aussi.
C'est-tu 4 joueurs seulement? Ça joue-tu en ligne à 4 joueurs?
Yes, ça joue en ligne à 4 joueurs.
C'est pas juste Couch Co-op.
Non, puis tu peux même jouer ensemble dans ton salon en jouant avec du monde en ligne aussi. Donc,
c'est tellement rare que c'est multiplateforme comme ça, puis multijoueurs, là. Je trouve que ça nous manque.
Ben, c'est ce qui nous manquait. On voulait que les gens puissent s'amuser ensemble, soit entre amis ou bien en famille. C'est-à-dire, tu sais, le père avec son enfant qui joue. Puis la particularité de notre jeu, c'est qu'évidemment, c'est un univers fantastique dans lequel les héros peuvent se transformer en dragons. Donc, un triple dragon. Donc, c'est ça la passe. C'est des super-héros fantastiques qui se transforment en dragons pour combattre les forces.
Puis en même temps, la manière qui est faite, moi, j'ai joué la démo là, que j'ai trouvé super. Puis
tout ça s'adresse. Droite. Avec M2 Gaming, tu as eu des passes droites.
C'est ça qui arrive. mais ça s'adresse pas mal à n'importe quel âge. Je veux dire, c'est quoi le plus bas âge? Moi, j'ai vu quand même assez jeune. Là, c'est pas hyper violent, c'est juste correct, c'est très ludique.
Oui, c'est fait pour être accessible. Puis habituellement, tu prends la manette puis tu figures rapidement un peu comment jouer au jeu. Donc, en fait, ça passe de 7 à 99 ans, on va dire.
Ouais.
Et le but, c'est vraiment de pouvoir jouer ensemble. Mais on a rajouté une particularité. Habituellement, ces jeux-là, c'est que tu joues en équipe, on va dire, t'es ensemble à combattre des monstres. Là. Sauf que souvenez-vous des films de Lord of the Rings avec Legolas et Gimli qui se lançaient un challenge à savoir qui en avait tué le plus. Ben là, nous, on a fait un mode compétitif dans lequel c'est en fonction des points, des monstres que tu élimines. Puis là, ben, tu peux nuire à tes adversaires en utilisant en frappant des boîtes magiques, ou en tout cas des boîtes de power-up. Un peu à la Mario Kart qui va te permettre de nuire aux autres. Exemple, transformer tes adversaires en grenouilles pendant un certain temps. Fait que là, pendant ce temps-là, ils peuvent pas attaquer. Toi, tu peux attaquer plus de monstres, ça fait que tu fais plus de points. Fait qu'il y a une dynamique compétitive qu'on a rajoutée, qu'on voit pas habituellement dans les beat'em up, qui font que je pense que ça fait une expérience qui est unique.
C'est un jeu qui va se détailler à combien?
En fait, il va être 24,99 US à sa sortie. On est en train, j'ai pas la confirmation, mais on essaie de l'arrondir à 30$ canadiens, mettons, okay.
C'est tellement pas cher.
Ben non, parce que le but, c'est on veut faire un jeu... Quand on fait des jeux indépendants, ce serait déraisonnable, je pense, que de le vendre à un plein prix d'un jeu, mettons, de l'ampleur de Call of Duty.
Puis y a-tu des achats en ligne pour les habiller de façon différente? Y a-tu ce genre d'affaires-là?
En ce moment, le jeu n'a pas de microtransactions. C'est vraiment, t'achètes le jeu, t'as tout ce qui vient avec. On commence avec 4 personnages au lancement sur Steam.
Oui.
Et puis, entre-temps, on va rajouter, après le lancement, d'autres héros, parce que c'est 8 héros au total. Donc, quand la version Switch va sortir en septembre, puis éventuellement la version PlayStation puis Xbox, là, on va avoir 8 héros jouables qui sont tous différents, mais qui ont un élément classique de Donjons & Dragons. Le barbare, la chevalière, la sorcière, le magicien, ce genre de choses-là.
Tu fais plein de trucs, excuse-moi.
Non, mais je m'en disais justement, c'est parce que tu parlais de PlayStation et les autres plateformes. C'est-tu quelque chose qui est bien dur à adapter ou comment ça fonctionne, le choix de l'adaptation, parce que tu as parlé de Switch en premier?
En fait, c'est sûr qu'avec une petite équipe, on est obligé d'y aller à la pièce.
Okay.
Souvent, quand on a une grosse équipe, on est capable de faire du développement multiplateforme en parallèle. Sauf que ce qu'on fait, c'est que la raison pour laquelle on y va avec la Switch, c'est parce que c'est vraiment, on croit que c'est notre public fort. Donc, la Nintendo Switch se prête à merveille pour ce genre de jeu-là.
Le multijoueur.
Donc, oui, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet d'abord la version Nintendo Switch. Puis par la suite, on travaille la version qui va nous permettre de rouler le jeu sur PlayStation 5 ou Xbox. Ça fait que ça se fait comme en enchaînement.
OK. Tu fais plein de choses avec les héros du Mont-Dragon. Il y a même des casse-têtes. Quand tu fais ton casse-tête puis tu le finis, bon, tu le regardes, c'est un produit qui est là, tu dis « Wow, je l'aime, je l'adore, cool, il n'y a pas de coche, tout est parfait. » Fait que tu l'envoies, puis eux autres, ils le produisent, puis ils le distribuent. Un jeu vidéo, là... C'est-tu toi qui es chargé de peser sur Enter et dire « il est fini » Ce moment-là doit être épouvantable à vivre.
Non, c'est pas si pire parce que d'abord, dans le monde du jeu indépendant, il y a une sorte de tolérance au fait que ton jeu il est peut-être pas parfait quand il sort.
Okay.
Ce que tu veux, c'est bâtir un lien avec ta communauté. Puis même si la communauté, elle trouve des bugs puis elle te les envoie, l'important, c'est que tu puisses répondre aux bugs qui pourraient être observés. Fait habituellement, c'est sûr que c'est tout le temps une période stressante d'arriver à dire « OK, notre jeu, je pense qu'il y a presque plus de bugs.
Ouais. »
Et là, tu dis « ça va être notre version gold qu'on appelle.
Ouais. »
Et puis là, à ce moment-là, on se dit « OK, ça, c'est la version qu'on sort, mettons, le 25 juin. » Puis par la suite, on va être capable de faire des updates pour faire des patchs qu'on appelle, qui va permettre à ce moment-là de faire des corrections de bugs progressives.
Okay.
Donc, habituellement, tu sais, c'est pas comme... La journée n'est pas finie, là. Tu commences, puis...
C'est-tu moi qui me trompe ou me semble que dans les jeux indépendants, dont tu fais partie maintenant, c'est plus rare d'avoir des choses bien buggées. Tu sais, tu peux avoir des affaires qui sont moins lustrées, moins polies, parce que les moyens sont pas là. Mais en termes de bugs, tu sais, on le dit surtout dans les gros jeux 3A, que tantôt on parlait des studios qui ont 3000, 2000 personnes avec plein de studios qui travaillent ensemble. Quand ça sort, puis ça, c'est buggé, puis t'as payé 100$ pour un jeu, c'est sûr que ça fait grincer des dents.
C'est fâchant.
Mais dans un jeu indépendant, quand on parlait tantôt, la prise de décision est plus rapide, vous consultez, vous corrigez les affaires plus rapidement peut-être.
Ouais.
Me semble que moi, le trois quarts des jeux indépendants, je frappe rarement des gros bugs.
En fait, ça va dépendre. C'est sûr que n'importe quel jeu, même s'il est indépendant, tu veux pas avoir de bugs qui va faire, mettons, crasher ton jeu.
Ah oui.
Mais même si ça devait arriver, habituellement, si tu es en contact avec ta communauté, parce que, mettons, on a un channel Discord dans lequel on est capable de communiquer avec ceux qui s'intéressent vraiment à ce qu'on fait, mettons, qui aiment ce qu'on... qui veulent rester en contact avec nous. Ben, le simple fait de dire « Hey, excusez, on travaille sur ce bug-là, on va le fixer, dans la prochaine patch, il va être enlevé. »
OK, la communication est rapide.
C'est ça.
Okay,
on peut vraiment avoir une communication rapide.
Hey, en terminant, les héros du Mont-Dragon sur PC, ça sort dans 5 jours. T'as des romans aussi sur les personnages de l'univers des héros du Mont-Dragon. Ça, on peut-tu se procurer ces livres-là déjà?
Oui, absolument. On est déjà rendu à l'écriture du 8e roman. Donc, on a un livre par personnage. Et c'est là qu'on apprend à découvrir les héros, c'est leur histoire, leur origine, qui sont-ils, pourquoi doivent-ils devenir des dragons.
Ah, c'est très cool.
Oui, ouais, absolument. Et ça, on connaît, ça connaît un succès extraordinaire. Au Salon du Livre de Québec, dernièrement, on était là, puis c'est la folie furieuse, on a vendu 1200 romans.
Puis le jeu sur PC, on peut se le procurer à quel endroit?
Ça va être vraiment sur la plateforme Steam.
Steam?
Éventuellement, Epic Store, je ne sais pas exactement quand, mais je dirais la plateforme Steam pour commencer, puis ensuite, cet automne, les consoles.
Thomas Wilson, ça a été un plaisir de te rencontrer. Thomas Wilson, c'est un des dirigeants du studio Runic. Oui, Marc?
Juste une autre chose, là, parce que Thomas t'a dit, il se réalise beaucoup, il fait plein de choses. Thomas, tu te rappelles-tu d'une entrevue que tu m'avais donnée? Il te restait un projet que tu m'avais dit que tu avais déjà même la toune de ça, fait dans ta tête.
Yes.
Tu peux en parler?
Oui, on peut en parler. Oui? Parce qu'en fait, il y a une série animée aussi qui est en développement, si tout va bien. Donc, on travaille avec Happy Camper Media, qui fait la Jean-Jean à la télévision. Puis là, ben en fait, si tout va bien, on va avoir un projet qu'on va démarrer, puis on va aller le présenter à des potentiels distributeurs.
Comme sur Netflix, exemple?
Exemple.
C'est très cool. Ben, je te le souhaite, vous êtes extrêmement dynamique. Je vous salue, comme je salue la gang de Marc Desgagnés d'M2 Gaming, pour en savoir plus sur le merveilleux monde du jeu vidéo.
Bien, notre Facebook, notre X, évidemment, allez voir nos vidéos qu'on fait sur notre plateforme sur YouTube, M2 Gaming Canada. N'oubliez pas Canada, parce que M2 Gaming, on n'est pas très recherché comme nom. Mais c'est ça.
M2 Gaming Canada. Merci, messieurs.
Salut.
Merci beaucoup.
On revient.
Le vol de ma planche, c'est un show musical.